Ouais, bonjour et bienvenue à Détour Estival de ce début de semaine avec Fulgence Blanc au micro et moi, c'est Maurice Bolduc à la console. En première partie d'émission, nous allons parler de chronique, oui, chronique nutrition bien sûr avec Louise Thibault et en deuxième partie, on reçoit Renaud Lauranger, directeur artistique du Festival de la Naudière. Restez à l'écoute, on vous revient tout de suite. Mon âme et ma conscience. Voilà, en ce début de semaine, comme d'habitude d'ailleurs, notre chroniqueuse de nutrition est déjà au bout du fil. Elle attend patiemment ce que je dis. Bonjour, je dis, c'est parti, Louise, avant que. On va parler de. Voilà, qu'elle va nous parler de quoi aujourd'hui? La couleur des goûts et des odeurs. Voilà, ça C'est inspiré de ce livre publié aux éditions de l'Homme. Bonjour Louise Thibault.
Bonjour Fulgence Blas.
Oui. On m'appelle pas souvent comme ça, Louise.
Ah, bah oui, mais on s'appelle par nos prénoms et nos noms aujourd'hui.
C'est ça. Alors, tu vas nous parler aujourd'hui de couleurs, de la couleur des goûts et des odeurs.
Eh oui, ça existe.
Oui.
Ça existe et on le sait, notre œil exerce un fort pouvoir sur notre façon de manger et de boire.
Oui.
Par exemple, ça a été prouvé scientifiquement. On a fait des travaux très, très sérieux qui ont montré qu'on consomme plus de vin si la bouteille est sur la table plutôt que sur le comptoir du bar. Alors, les restaurateurs le savent et se font un devoir de mettre le vin sur la table ou tout près de la table. C'est connu, on boit plus si on voit la bouteille de vin ou même la bouteille d'eau. Alors, si vous voulez tempérer un peu là, votre consommation de vin, ce serait bien d'avoir un pichet d'eau ou un verre d'eau sur la table aussi. Et puis, ça devrait vous aider à consommer plus d'eau.
Sincèrement, Louis, c'est des choses auxquelles on ne fait pas du tout attention quand on...
Eh bien non, mais à partir de maintenant, je pense qu'on va pouvoir y faire attention.
Ah oui, moi surtout. Non, je ne suis pas un grand consommateur de vin non plus, mais je bois assez d'eau.
Voilà. Ça c'est bien.
Mmh.
Alors, c'est ça. Plus les aliments sont accessibles, plus ils sont visibles, plus on en mange et on en boit.
C'est vrai.
Et puis, si vous voulez, par exemple, améliorer votre consommation de fruits ou de légumes, eh bien, disposez un panier de fruits sur la table ou sur le comptoir. Faites la même chose avec des légumes. Donc, si vous avez tout ça plus à portée de la main, ça devrait vous permettre d'améliorer vos habitudes alimentaires.
Oui.
Et le propos principal de ma chronique d'aujourd'hui, c'est que la couleur d'un aliment ou d'une boisson peut influencer la façon dont nos sens les perçoivent.
Oui, j'aime bien de le savoir.
Alors, les gens qui ont assisté à mes conférences ou les professionnels qui ont assisté à mes formations professionnelles ont probablement fait ce petit test
que
j'aime bien faire. Alors, je montre tout simplement sur un écran la photo d'un verre de jus d'orange. Alors, je précise que c'est du jus d'orange de couleur pâle et d'un verre de jus d'orange de couleur foncée. Et je demande tout simplement à l'auditoire, à votre avis, lequel de ces jus d'orange est le plus goûteux? Celui qui a la couleur pâle ou celui qui a la couleur foncée? Donc, vous avez 3 secondes pour me répondre, Fulgence.
Oui, je pense bien que c'est le verre ou bien la bouteille qui a la couleur foncée.
Ben oui, hein? Mm-hmm. Et puis, la plupart des gens répondent ça. Hein. Ils disent que le jus d'orange de couleur plus foncée, de couleur plus intense, est considéré comme plus goûteux.
Et plus pur.
Oui, plus pur. Et certaines personnes m'ont même dit qu'il était plus sucré. Mais est-ce que vous y avez goûté à ce jus pour me répondre ça?
Oui, je...
Vous avez vu une photo du jus.
Oui, mais quand je vais à l'épicerie, je vois les bouteilles, je vois les différences de couleurs de jus d'orange d'ailleurs.
Alors, il faudrait que vous fassiez un test à l'aveugle la prochaine fois avec le jus plus foncé et le jus plus pâle et voir si c'est vraiment une différence dans le goût que vous percevez et non quelque chose que vous pensez d'abord que vous vous attendez à ce que le jus plus foncé soit plus goûteux ou plus sucré. Ce n'est pas nécessairement le cas, parce que dans certains jus, on ajoute des colorants, figurez-vous, et ces colorants n'ont pas de goût. C'est tout simplement pour attirer l'œil.
Oh, c'est
intéressant, non?
Mais le jus d'orange foncé, de couleur foncée, ils n'ont pas ajouté des colorants, là?
Ah, ça dépend.
Non. Mais qu'est-ce qu'on peut faire maintenant?
Alors, lisez pour... les étiquettes.
D'accord, Louise, je t'écoute.
Je peux aussi vous préciser que certains fruits contiennent plus de certains pigments qui donnent de la couleur, mais pas nécessairement du goût. Ils donnent tout simplement de la couleur.
Oui, ça me fait penser aux tomates portugaises à l'époque en Europe, il y a quelques années de cela, des tomates qui ont été teinte à la couleur rouge de la tomate mûre, quoi.
Ah oui.
Et c'est, pourtant, c'est des tomates vertes.
Eh oui. Mmh. Ah ah. Il y a un autre petit test aussi que j'ai souvent fait dans mes conférences, c'est que je montre une photo de 3 verres avec des contenus de couleurs différentes. Alors imaginez, il y a un verre qui contient un liquide incolore, un autre qui contient un liquide rouge et un autre qui contient un liquide vert. Et je demande, ben, laquelle de ces boissons est la plus désaltérante selon vous? La boisson incolore, la boisson rouge ou la boisson verte?
La boisson incolore qui me fait penser à l'eau.
Ben oui, l'incolore, ben, habituellement, c'est ce que les gens disent.
Oui.
Alors, on pense d'emblée que le pouvoir désaltérant d'une boisson, ben, c'est une boisson qui est incolore. Ou même, il y a des gens qui m'ont répondu la boisson rouge.
Ah non, moi personne.
Ben c'est ça. Mais vous n'y avez pas goûté.
Non, non.
Alors voilà. Donc ben, tout ça, ça montre, ce sont des bons exemples qui montrent que la couleur d'un aliment, ben, d'une boisson dans ce cas-ci, va influencer notre perception, même sans y avoir goûté.
Wow.
Mais là, je vais vous parler d'une autre étude scientifique qui a été faite par des collègues à moi.
Oui.
Et on a offert à des participants une glace, une crème glacée de couleur blanche, aromatisée au chocolat, et une autre glace de couleur brune, aromatisée à la vanille.
Oui.
On a demandé aux participants d'identifier les glaces. Et la glace blanche a été identifiée comme étant de la glace à la vanille, et la brune a été identifiée comme étant de la glace au chocolat.
OK.
C'est fort, hein? Alors, c'est seulement la couleur.
La couleur, oui. Oui.
Exactement. Oui. Alors, on a vraiment réussi à tromper le sens du goût uniquement par la couleur.
Alors, quand je vais chez mon crémier, là, la crémerie où je vais souvent, là, je ne pense pas qu'il va me tromper avec la... Parce que je connais la couleur de la vanille, je connais la couleur du chocolat.
Oui, mais tu mettais une petite essence au chocolat.
Oui, ils vont me tromper. Oui, ils sont capables de nous tromper. Oui, tout est possible de nos jours. Oui.
Alors, ce serait peut-être bien, encore une fois, de manger les yeux fermés pour vraiment porter attention au goût réel. Et court-circuiter un peu ce que nos yeux nous portent à croire.
Ou bien nous forcent à admirer, ou bien à apprécier de loin, déjà.
Ben oui. Mmh. Wow. Oui. Et il n'y a pas que les goûts qu'on associe à la couleur des aliments, il y a aussi un autre sens. Mmh. Et ce sens-là, c'est le second sens d'importance pour la perception sensorielle des aliments. Alors, on a déjà fait le petit test dans une chronique précédente.
La vue?
La vue, le goût, l'odorat, le toucher, l'ouïe. Alors, on a trouvé que, c'est plutôt Maurice qui a trouvé que la vue, c'était le sens le plus important.
Oui, la dernière fois, je me rappelle bien. Ah, il est très accroché à ça, il faut lui, c'est clair. Il me faisait signe ici aujourd'hui encore.
Ah, oui, le second sens. C'est quoi, votre avis?
Oui.
Est-ce que c'est le goût, l'odorat, le toucher ou l'ouïe?
On vient de parler de couleur.
Oui, ben la couleur, bon, on l'apprécie avec les yeux, donc c'est pas la vue.
Bon, le goût?
Oui. Vous pensez que c'est le goût?
Okay, je peux complètement me planter, hein, parce que la dernière fois, c'est à ça que je pensais, et puis bon, ben, on est retombé sur la vue. L'odorat, peut-être aussi.
Non, la vue, c'est hors de question.
Oh, ouais, l'odorat, l'odeur.
Moi, je vous dis que c'est l'odorat.
Mm-hmm.
Et ça a été prouvé scientifiquement, ça aussi.
Oui.
Oui, que l'odorat était notre second sens d'importance pour la perception sensorielle des aliments. Ah. Alors, on sent les aliments bien avant de les goûter.
Oui.
Et il y a aussi un lien très très fort entre les couleurs et l'odorat. Par exemple, on va associer inconsciemment, encore une fois, les couleurs sombres aux odeurs fortes et les couleurs claires à une odeur légère.
C'est vrai.
Et est-ce que j'ai le temps de vous parler d'une petite expérience qui a été faite à l'Université de Bordeaux.
Oui, Allez.
Merci.
On t'écoute, Louise.
Peut-être 2 minutes pour parler de ça. Alors, à la faculté d'œnologie, l'étude des vins de Bordeaux, on a étudié, chez des étudiants en œnologie, les arômes d'un vin Bordeaux blanc. Donc, les sujets ont trouvé des notes citronnées, des parfums de miel, des parfums d'amande, de beurre, qui sont tout à fait en accord avec les arômes normalement associés à ce Bordeaux blanc. Mais il y avait une seconde partie à l'étude. Et dans cette deuxième partie, les chercheurs ont ajouté à ce même vin un colorant rouge, inodore et sans goût. Alors, les mêmes sujets ont été appelés à décrire ce vin. Et cette fois-ci, ils ont décelé des arômes et des notes de cassis, de cerises, de petits fruits, qui sont des attributs de vin rouge.
OK.
Alors, mais ils goûtaient, en fait, le même vin Bordeaux blanc.
Et ils goûtaient le même vin Bordeaux, le bordelais blanc.
Et qui avait été coloré avec un colorant rouge. Alors, couleur et odorat sont vraiment liés. En fait, on peut nous faire croire que quelque chose, qu'un vin est un vin blanc ou un vin rouge, seulement en modifiant la couleur.
En modifiant la couleur.
Et oui.
Wow, même pas seulement le vin, des fruits, comme je le disais, les tomates espagnoles qui ont été découvertes à l'époque. Même des pommes, on peut les transformer aussi de couleur. Des pommes vertes, on peut mettre de la couleur rouge et puis on fait croire aux gens qu'elles sont mûres, quoi.
Ben, c'est ça, oui.
Mmh.
Oui.
Merci beaucoup, Louise.
Ben, je vous en prie. Donc, ben, c'était ma petite chronique. Et puis, ben, on continuera de parler des couleurs dans une autre chronique, si vous le désirez bien.
À bientôt.
À très bientôt.
Merci et bonne fin de journée.
Je vous en prie vous-même. Au revoir.
Au revoir. Calypso Rose avec la complicité d'Angela, d'Angelique Kidjo, Wafu Dance. Ah, la grande, tout ce qui ne sait pas. Calypso Rose, ça me fait penser à César Evora, cette dame. Elle me fait penser à César Evora, cette dame. Mais elle est beaucoup plus. Elle est de, comment dire, comment s'appelle cette petite île-là, ce petit pays-là. Trinidad Tobago, le pays de la soca et de Calypso. Voilà. Calypso Rose, elle aussi, elle va sur scène, je crois bien aussi, les pieds nus ou bien je ne sais quoi là. Mais c'est la génération de César Evora qui nous a quittés malheureusement et que la terre lui soit légère. La grande Calypso Rose avec la complicité de Angelique Kidjo, Wafu Dance. Voilà, je ne sais pas, mais cette histoire de couleur et de goût, d'odeur, de nourriture, moi ça me surprend tout le temps, effectivement. C'est des choses auxquelles on ne fait pas attention, cette histoire d'avoir la bouteille d'eau ou bien la bouteille de vin sur la table, ça fait beaucoup plus consommer. Ça, je vais essayer de, si je deviens discipliné, ben, par exemple, je tiens compte de ce qu'elle dit ou bien je me rappelle des chroniques de Louise, ça va beaucoup m'aider à essayer de faire un peu attention pour ne pas être trompé par certaines choses. C'est ce qui fait que je ne m'achète plus de cacahuètes d'arachide chez moi pour mettre sur la table, parce que tant que le petit pot devant moi est rempli d'arachides ou de cacahuètes, mes doigts n'arrêtent pas de partir du pot à la bouche, je n'en achète plus du tout. Je suis un accro. Alors mieux vaut ne plus acheter, mieux vaut ne plus en avoir sur la table, le petit pot là d'arachides. Non, je peux m'en passer, j'arrive à me discipliner pour ça aussi. Je ne sais pas, mais Maurice, comment de ton côté, qu'est-ce qui fait que quand tu vois devant toi sur ta table dans le salon, tu dois partir tout de suite?
Le truc, faut pas commencer.
Voilà. j'aime bien cette réponse-là. c'est vrai. Voilà. Allez, restez à l'écoute. On vous revient pour la deuxième partie de l'émission avec notre invité qui va nous parler du festival de la Naudière, Renaud Loranger. Voilà. Restez à l'écoute. On vous revient d'ici peu.
Si je fais mes cils charbonneux et mes yeux de plus de lumière et mes lèvres plus écarlates, demandant à tous les miroirs si tout est comme je veux, nulle vanité je recherche, le visage qui fut le mien avant qu'il n'y ait le monde. Pourquoi me dire cruel? Pourquoi se croire trahi? Je le veux aimant ce qui fut avant qu'il n'y ait le monde. Avant qu'il n'y ait le monde. Qu'importe si je regarde un homme tout comme si c'était mon amour quand pourtant mon sang est demeuré froid, mon cœur ne bat pas plus vite. Pourquoi me dire cruel? Pourquoi se croire trahi? Je le veux aimant ce qui fut avant qu'il n'y ait le monde. Avant. Avant qu'il n'y ait le monde. cœur ne va pas plus vite qu'avant. 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 Mon sang est demeuré froid. Mon cœur. Pourquoi me dire cruel? Pourquoi se croire trahi? Je le veux aimant ce qui fut avant qu'il n'y ait le monde.
Feu Chatterton, Chatterton, avant qu'il y ait le monde. Restez à l'écoute. On vous revient tout de suite avec notre invité, Renaud Loranger, directeur artistique du Festival de la Naudière. Voilà, qui va nous parler de ce festival 2021.
Écoutez, Détour Estival avec Fulgence Blas.
Nous avons tous besoin de courage afin de faire face à nos démons et de nous élever. Ce n'est qu'à ce moment-là que l'on peut vraiment commencer à vivre.
I would be lying if I said I'm fine. I think of you at least 100 times. 'Cause in the echo of my voice I hear your words, just like you're there. I still come home from a long day, so much to talk about, so much to say. I love to think that we're still making plans, in conversations that'll never end. In conversations that'll never end. Don't you dare fail me now. I need you to keep away the doubts. I'm staring in the face of something new. You're all I got to hold on to. So courage, don't you dare fail me now. No one to hide from the truth I know. Sight on my hands, but I won't let you go. There's no replacing the way you touched me. I still feel the rush. Sometimes it drowns me till I can't breathe, thinking it's only in our memories. But then I talk to you like I did then, in conversations that will never. Courage, don't you dare fail me now. I need you to keep away the doubts. I'm staring in the face of something new. You're all I got to hold on to. So courage, don't you dare fail me now. 'Cause it's not easy when you're not with me. This world of madness goes faster now. And it's a train wreck, but I'm gonna crash it. Long as you're ready. Don't you dare fail me now, 'cause it's not easy when you're not with me. This world of madness goes faster now, and it's a train wreck, but I'm a crashing. Don't lose your mind. Don't you dare fail me now.
C'était Céline Dion, Courage. C'est dit bien. On a déjà notre invité avec nous au téléphone qui va nous parler de. Du festival de la Naudière, c'est le directeur artistique de la Naudière, ce natif de Joliette, qui a grandi là-bas d'ailleurs et qui vit maintenant à Berlin depuis plus de 10 ans. Et on s'excuse beaucoup du, et je lui dis un grand merci, hein, parce qu'il y a le décalage horaire qui est là. Renaud Loranger, moi je suis allé voir sa bio, moi son parcours, à son âge, il a des cordes, il porte beaucoup de chapeaux d'ailleurs. C'est lui le directeur artistique du Festival de la Naudière qui aura lieu d'ailleurs du 17 au 8 août. Et cette année, le thème c'est Vibrer d'enchantement. Bonjour Renaud Loranger, je vais dire bonsoir chez vous là-bas en Europe.
Bonjour, oui, bonsoir.
Comment allez-vous?
Très bien, merci.
Alors, le natif de Joliette qui vit à Berlin depuis plus d'une dizaine d'années, comment quel a été cet amour avant de venir rapidement au festival, là, cet amour pour l'Allemagne, qu'est-ce qui vous a propulsé en Allemagne? C'est le métier? C'est le travail?
Ah oui, oui, voilà, c'est une longue histoire, mais c'est une belle histoire. C'était à l'époque une grande attirance pour la culture germanique, pour le monde germanique, mais surtout à la base pour les liens avec la musique, parce que l'Allemagne en particulier, c'est un pays vraiment qui a contribué énormément à la musique, disons à la musique qu'on appelle la musique classique.
La musique classique, oui, oui.
Ça me passionnait, et puis de fil en aiguille, j'ai fait ma vie. En effet, dans la dernière décennie en Allemagne et à Berlin plus spécialement.
Oui.
Et puis, je suis, j'ai des liens évidemment très, très solides, très intimes avec la Naudière, avec Joliette, puis avec le festival.
Oui.
Puisque, comme vous l'indiquez, j'ai grandi dans la région. Et puis, c'était un grand bonheur, il y a 2 ans déjà, de reprendre la direction artistique du festival.
Oui, 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 c'est vrai. Avant d'être là, bon, de toute façon, le thème cette année, c'est vous qui choisissez le thème depuis que vous êtes directeur artistique, ou bien c'est qui choisit le thème « Vibrer d'enchantement », c'est beau, hein?
Oui, bien sûr, c'est un travail qu'on fait ensemble, si vous voulez, mais c'est une réflexion aussi de la programmation, du contenu de la saison qu'on propose au public. Et puis, il y a une question vraiment là, de se ressourcer, de revenir au fond à l'essentiel. Les salles de concert, les théâtres ont été fermés pendant si longtemps.
Oui.
L'édition 2020 du festival a été annulée d'ailleurs par la force des choses. Donc là, c'est vraiment comme une forme de renaissance, si vous voulez. On se retrouve dans ce magnifique amphithéâtre. Donc, à l'extérieur, à Joliette, on a la chance d'avoir cet espace extraordinaire où l'acoustique, vraiment, à elle seule, j'ai envie de dire, vaudrait le détour.
Oui, oui.
Mais on a surtout la possibilité d'accueillir beaucoup de gens parce que, justement, même avec la distanciation, avec les mesures sanitaires, le site est très grand, donc on peut avoir près de 1500, un peu plus, en fait, on va avoir un peu plus que 1500 personnes à chaque concert. Donc voilà,
wow.
Une grande fête qui s'annonce, et puis autant sur la scène que dans la salle, parce que encore une fois, pour les artistes, pour les musiciens, la même chose, ils ont très très peu travaillé dans la dernière année, ils ont pratiquement pas joué devant le public.
Oui, oui.
Donc ça va être une grande joie pour tout le monde.
Oh ouais, de très beau. Mais c'est des retrouvailles comme ça. On se dit, mais on s'attendait pas du tout même qu'il y ait. Moi, je m'attendais pas du tout que cette année, ça allait se passer de cette manière. Je croyais que tout allait se passer encore sur le web, quoi. Et puis tout d'un coup, bon ben avec le vaccin, les vaccins qui sont arrivés sur le marché, les vaccins et ceux qui ont accepté de se faire vacciner, et puis bon ben les différents décideurs ont pris la décision de nous laisser au moins respirer un peu, quoi.
Bon. Oui, exactement.
Oui.
De notre côté, on a tenu vraiment jusqu'au dernier moment, on a tenu tout le monde. Bon, évidemment, il y a encore des restrictions importantes par rapport au déplacement. Hein.
Donc, oui.
On avait plusieurs invités étrangers qui ne pourront pas être avec nous, là, malheureusement, à cause des règlements qui sont toujours en vigueur.
C'est ça.
Mais on a une saison merveilleuse d'artistes canadiens, québécois.
Oui.
Nos grands orchestres, évidemment, québécois, l'OSM, les Violons du Roi, l'Orchestre métropolitain avec Yannick Nézet-Séguin, qui sont là régulièrement là, par un festival.
Oui.
On a aussi de très beaux artistes canadiens qui font de belles carrières, mais qui ne s'étaient pas produits encore au festival.
Oui.
Donc, on leur offre leur début. Mais voilà, on a tenu tout ça quand même là jusqu'au dernier moment. Puis, j'ai envie de dire, cette ambition, puis ce côté un peu intrépide de notre travail à payer, parce que finalement, justement, on peut tenir ce festival, puis on peut le tenir dans des conditions qui, certes, n'ont rien à voir avec la vie normale, mais s'en approche beaucoup plus.
Un semblant de normalité.
18 mois, oui, voilà.
Un semblant de normalité. Je vous dis bravo et félicitations à vous et à toute l'équipe, sincèrement. C'est pas si facile de travailler dans ce genre de conditions comme ça. C'est du jamais vécu. De mon vivant personnel, j'ai pas connu 14, 18, ni 39, 45. C'est le petit virus là qui a mis le monde.
Ouais, c'est une situation très particulière.
Très particulière. Oh, ouais, c'est vrai. Alors, comment est-ce que ça a été facile de mettre la main sur nos musiciens locaux ici, puisque c'était difficile de faire venir ceux qui sont à l'extérieur? Est-ce que ça a été facile de pouvoir les réunir pour qu'ils puissent prendre part à ce nouveau festival en présence physique, comme je le dis, avec le public?
Facile, non, parce que tout ça a dû se faire très, très vite, hein, au printemps.
Oui.
Il fallait quand même qu'on voit un peu comment la situation évoluait.
Oui.
Moi, j'ai tendance, en plus, même en février 2020, déjà, quand on voyait que la pandémie se profilait, j'avais tendance à demeurer optimiste quand même et tout ça. Ce qui est important, parce qu'au fond, ça nous permet finalement de faire des choses. Mais au printemps, en effet, là, ou dans les dernières semaines, derniers mois, avril, mai, juin, il a fallu qu'on réinvente un peu le festival. Et tout ça n'a été possible que grâce à la flexibilité, à l'enthousiasme surtout de nos partenaires, de nos invités. Certains, mais c'est un petit peu, c'est intéressant, là, j'entre un peu dans les détails de cuisine, si vous voulez, mais le rythme de réouverture, par exemple, au Canada, n'est pas tout à fait comparable à ce qu'on connaît aux États-Unis ou en Europe.
Oui,
on a des artistes canadiens importants,
oui.
Qu'on aurait pu aussi éventuellement inviter, mais qui sont engagés ailleurs.
Ah.
Donc, ils ne peuvent pas nécessairement, à court terme, venir chez nous.
Ouais.
Ou qui, bon, avec les histoires de quarantaine, tout ça, c'est quand même encore compliqué. Donc, il y a aussi une part de risque à un moment donné qu'il faut minimiser, évidemment.
Mais, okay.
Si vous voulez, les gens qui sont là, on leur est extraordinairement reconnaissants.
Oui.
Et ils ont tous répondu très vite à l'appel en disant « Oui, on y va et on fait en sorte que le festival existe ». Ça, c'est quand même merveilleux.
Je me joins à votre voix pour leur dire merci aussi. Voilà. On va faire une petite pause musicale avec les rois, les violons du roi.
Ah, merveilleux.
Ouais. Voilà.
Ah,
c'était Astor Piazzolla, The Four Seasons of Buenos Aires, dans le cadre des destinations de Buenos Aires, où les violons du roi vont aussi participer. Voilà, là c'est clair, c'est fier, on a toujours notre invité avec nous, on passe encore quelques minutes avec lui, bon, pour le laisser aller au lit, là, tranquillement, il fait tard en Europe là-bas, il se fait tard. Alors, Renaud, je vous reviens, merci d'être là encore avec nous. Et puis, sincèrement, quand je regarde un peu votre parcours en Europe, vous portez plusieurs casquettes là-bas aussi. Vous avez été nommé vice-président et artiste répertoire du label Pentanome en 2006 et puis développé le catalogue de l'activité du label à l'international. Comment c'est venu ça?
Oui, ben en fait, quand j'avais pas l'intention très précise de travailler dans le disque, mais quand j'ai déménagé à Berlin, en fait, ça s'est présenté très vite. Hein. J'ai travaillé pendant plusieurs années chez Deutsche Grammophon, qui est une étiquette très, très importante, légendaire de musique classique.
Oui.
J'ai travaillé avec plusieurs artistes de premier plan, mais j'ai travaillé aussi notamment avec Yannick Mézet-Séguin. Donc voilà, et l'opportunité de reprendre le label Pentatone, qui est en fait l'ancien Philips Classics, qui est situé aux Pays-Bas, non loin d'Amsterdam, ça s'est présenté, et puis comme on dit souvent, c'était le genre d'invitation qui était impossible de refuser.
De dire comme, non.
oui, tout comme la proposition d'intervenir à la Naudière aussi
oui.
2018. Et puis ce qui est merveilleux, malgré les défis évidemment importants là, de la dernière année, ce qui est merveilleux, c'est que tout ça se combine très bien parce que j'ai des équipes merveilleuses de part et d'autre et puis je peux faire mon travail sans être à temps plein à Montréal ou à Joliette pendant l'année.
Mmh.
Et de la même manière, quand je suis au Canada, eh bien, j'ai tout un staff qui peut... continuer de soutenir nos activités dans le label.
Oui.
Et puis tout ça se marie très bien parce qu'il y a des artistes qui travaillent dans le label, qui viennent au festival ou vice-versa. Et puis ça, c'est une grande joie pour moi aussi. Simplement de pouvoir partager avec le public du Québec mes coups de cœur, au fond, mes amitiés musicales, mes
amours
artistiques, parce qu'au fond, c'est ça. Et puis, de cette manière-là, vraiment, je dis à tout le monde, profitez-en, venez au festival cet été, et puis faites-vous plaisir, enfin. Il me semble qu'on a été privés de beauté, de conversation, de rencontres pendant tellement longtemps.
Oui.
Il faut en profiter. Et puis, il n'y a pas de risque, il n'y a pas de danger. Les plans sanitaires ont été vraiment très, très sérieusement élaborés.
Oui.
Voilà.
Voilà. Et puis, non seulement ça. Bah, je ne vais pas parcourir tout votre CV, ça me donne le tourniquet, c'est beaucoup. Vous êtes aussi membre fondateur de l'European Opera Think Tank.
Oui, bien sûr.
Est-ce que vous avez envie de transférer un truc comme ça à Montréal pour essayer de rentrer en contact avec les jeunes de la musique classique?
Oui, ben c'est une des idées vraiment aussi sur lesquelles on travaille au festival en ce moment. C'est sûr qu'encore une fois, sur le plan, si vous voulez, de l'envergure ou des attaches internationales, en ce moment, c'est un peu plus difficile, mais il faut quand même s'imaginer que tranquillement, là, les choses vont continuer de s'améliorer, que
oui.
Les déplacements vont redevenir un peu plus fluides. Mais oui, tout à fait, parce que c'était une initiative merveilleuse qui s'est conclue, d'ailleurs, mais j'ai été impliqué là-bas pendant quand même quelques années,
oui.
Pendant 4 ans à peu près. Et puis voilà, c'était une chose merveilleuse parce que ça permettait de réunir des professionnels aguerris,
oui.
Une fois ou deux par année, et de les mettre en contact aussi avec des jeunes,
oui.
Soit des musiciens ou des gens qui allaient s'intéresser plutôt au management au côté commercial ou à la communication.
Oui.
Et ça, c'est quelque chose, je pense, qui manque absolument dans ces métiers. Ce sont des métiers dont la professionnalisation, toute proportion gardée, est relativement jeune.
Oui.
Et puis, je pense que ça serait vraiment merveilleusement bénéfique pour le Québec d'avoir des plateformes comme celle-là, absolument.
Oui, oui, oui. Il nous reste quelques 2 minutes, 1 minute et demie, là, rapidement. Quel est votre message pour les gens qui nous écoutent, le public qui nous écoute, pour pouvoir faire le déplacement, forcer-les à aller voir le festival de cette année en présentiel, pas sur le web, voilà. Essayez de le forcer, oui, avec, en quelques mots.
Bien sûr, mais simplement le plaisir de se retrouver,
oui,
dans la nature, de retrouver la proximité avec les gens, avec les autres membres du public, mais aussi avec les artistes.
Oui.
Il y a de tout, j'ai envie de dire... Il y a de tout. Il y a, vous avez mentionné Piazzolla tout à l'heure, dont on souligne le centenaire cette année. Il y a Beethoven, dont on pensait souligner le 250e anniversaire l'année dernière. On fait un peu une entorse au calendrier.
Oui.
Il y a, encore une fois, il y a de la musique baroque, il y a du chant, il y a de la musique instrumentale, il y a du piano, il y a du violon. Il y a
une programmation très riche, très, très, très riche. Oui.
Simplement aller vers le site lanaudière.org pour les détails. Et puis, on va être tellement heureux de vous voir. Donc, n'hésitez absolument pas.
Merci beaucoup de votre disponibilité. Renaud Laurentier, directeur artistique du Festival de Lanaudière. Allez, bon vent. Je vous dis bon spectacle, bon festival. Et puis, voilà. À bientôt.
À bientôt. Au revoir.
Au revoir.
Ça implose, si tu sens le bonheur quand ça
faire trembler les aurores. On en a fin de l'émission comme ça d'aujourd'hui. Merci beaucoup, Maurice. Merci à notre invité, Renaud Lauranger, directeur artistique du Festival de la Naudière, et à notre chroniqueuse de nutrition, Louise Thibault. Alors, prenez soin de vous. Voilà. OK, c'est fini pour aujourd'hui. On se retrouve demain. On vous dit ciao.
Et Dieu, sur la vie, on va l'aider, toujours l'aider.